Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste. Une émission proposée et présentée par Emmanuel Huysmans-Perrin.
Marivaud David Jugnot, bonjour. Vous êtes agrégé de philosophie, docteur en sociologie, et vous travaillez depuis de longues années maintenant sur le concept de dissidence. Alors, ma première question va être simple. Vous venez de publier un livre aux éditions Actes Sud qui s'appelle « Socrate dissident, aux sources d'une éthique pour l'individu citoyen ». Première question, comment définissez-vous le concept de dissidence et à partir de quel corpus l'avez-vous travaillé? Parce que je crois que votre démarche est très intéressante sur ce point, puisqu'au fond, ça n'est pas tant d'un point de vue conceptuel que vous abordez le concept de dissidence, mais plus d'un point de vue sociologique.
C'était des luttes dans les années 70-80 où j'ai soutenu un individu qui défendait des principes au sein d'une institution. Et une fois que ces luttes ont été terminées, il m'a semblé que j'avais des choses importantes à dire qui n'avaient pas été dites. Et donc j'ai commencé à écrire sans savoir ce que donnerait pour... Dans quel but était cette écriture? J'avais pas de projet particulier, si ce n'est de dire ce que j'avais compris au travers de ces affaires. Ce qui a été étonnant, ces affaires étaient dans des institutions différentes, éducation nationale, la magistrature, le problème d'un père qui était devenu hors la loi. Et ce qui a été étonnant, c'est que il s'est dégagé un scénario que j'ai appelé le scénario de la dissidence, dans ce que j'ai appelé également de la dissidence institutionnelle. Alors, quel était ce scénario de la dissidence? Il était en quatre actes. Mm-hmm. Le premier acte, c'était l'affrontement entre un individu qui défendait des principes et qui se heurtait à ceux qui avaient intériorisé des normes qui n'était pas en cohérence avec ses principes. Et cet individu finissait par être rejeté, d'autant que ceux qui avaient intériorisé les normes diffusaient, secrétaient une image fantasmée de lui-même qui le discréditait. Et un des éléments important de ma recherche, c'était de montrer que dans un pays comme la France, démocratique, le dissident était rejeté comme paranoïaque et que le diagnostic de paranoïa était engendré spontanément par les défenseurs de la norme. Ça, c'était le premier temps. Le deuxième temps, c'est qu'il y a un moment où l'individu a tenté tous les recours pour faire valoir les principes.
Ses droits.
Ses droits. Hein. Et à ce moment-là, il est dans ce que j'ai appelé le dénuement institutionnel. Mmh. Et sommé, soit d'abandonner sa lutte, soit, et c'est là qu'il entre en dissidence. L'entrée en dissidence étant... se faisant toujours par un acte, une parole-acte, qui transgresse à la fois les normes et parfois la loi. Et cette transgression, en fait, c'est un appel, que j'ai appelé l'appel au peuple, ou l'appel aux consciences, mmh, qui met le problème, ce problème des principes, sur la place publique. À ce moment-là, si l'écho est entendu, et c'était ce qui s'était passé dans ces affaires dont je m'étais occupée...
Aussi d'un point de vue militant.
Aussi d'un point de vue militant, oui. Ce qui se passe, c'est que des comités de soutien se constituent et encerclent en quelque sorte l'institution qui est sommée soit de réintégrer, voire de réhabiliter l'individu dissident. Alors, dans ces affaires, il y a eu des possibilités de réintégration, jamais des possibilités de réhabilitation. Le problème de la réhabilitation, d'ailleurs, c'est un problème que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et que j'ai compris en faisant le détour par le roman d'Heinrich von Kleist, mm-hmm. Michael Kolas.
Un roman c'est absolument là, formidable
tout
sur
à fait.
L'injustice.
Tout hein? à fait. Et c'est dans ce roman que j'ai compris l'enjeu de la réhabilitation. C'est-à-dire comment l'individu qui avait été maltraité, qui avait été rabaissé, hein, avait besoin qu'au sein de son institution, il soit dit qu'il avait raison. Et qui a un geste de l'institution qui signifie qu'il avait raison.
Quelque chose de l'ordre de la reconnaissance.
Tout à fait.
Très bien. Alors, vous êtes partie de ce schéma.
J'ai travaillé pendant de longues années sur ces études de cas. Et j'ai fait ma thèse sur la dissidence institutionnelle.
Voilà. Et c'est à partir de ce schéma que vous avez ensuite travailler d'autres.
Alors, une fois que j'ai publié mon premier livre, Le dissident et l'institution ou Alice au pays des normes, quelques publications aussi d'articles, je me suis aperçue que on retrouvait ce même scénario dans Antigone. Et ce qui fait que j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Antigone ou l'aube de la dissidence. Et alors là, j'ai été stupéfaite de retrouver tous les éléments. C'est-à-dire qu'on a Antigone, bien sûr, qui défend des principes qui ont une dimension d'universalité, hein, qui s'oppose à Créon. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi tous les autres personnages qui ont la même signification. C'est-à-dire que Ismène représente tout à fait celle qui a intériorisé les normes. Et qui dit, mais c'est pas possible qu'on fasse quoi que ce soit, etc. On a Aemon, le fiancé d'Antigone, qui lui constitue déjà le soutien. Et on va voir comment, petit à petit, par l'acte de transgression d'Antigone, la situation se retourne et le peuple thébain devient le soutien également d'Antigone. Mmh, mmh. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, quand Antigone va enterrer Polynice, mm-hmm. Ismène lui dit, surtout fais-le en cachette. Et elle lui dit, mais non, au contraire, crie-le très fort. Autrement dit, il faut que ce soit public. Mm-hmm. C'est un acte public,
vous appelez...
L'appel au peuple, l'appel aux consciences. Mm, oui. Hein, l'appel aux consciences, qui est un appel à... des consciences qui doivent pouvoir venir, si la position est juste, renforcer notre position. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que on a également dans cette Antigone de Sophocle la réhabilitation par Tirésias qui vient à la fin dire que finalement c'était Antigone qui avait raison et Créon n'avait pas à se mêler du problème des religieux, du problème des morts. Mmh, mmh. Donc c'était tout à fait étonnant de retrouver ce scénario en plus dans une pièce imaginaire et en 442 avant Jésus-Christ.
Et ce qui me semble particulièrement vous intéresser, ce qui est, me semble-t-il, particulièrement intéressant dans ce schéma de la dissidence, c'est l'articulation de la morale et du politique.
Exactement. Exactement. C'est-à-dire que l'individu se sent responsable de la chose publique. Alors, c'est très emblématique avec Antigone, puisque Antigone, une femme à l'époque où c'est écrit, qui n'a un statut très très bas. En plus, elle est même décrite comme serve d'Oulos, mm-hmm. Par rapport à son oncle et Créon. Et donc, c'est tout à fait étonnant de montrer le pouvoir que cette femme, cette jeune femme, peut avoir en tant qu'acteur social, puisque par son acte, elle bouleverse complètement l'ordre de la cité.
Politique, bien sûr, hein? Bien sûr.
Donc ça, c'est tout à fait étonnant comme représentation de ce schéma de la dissidence.
Alors, vous avez repris en dernière instance, dans ce dernier ouvrage, ce schéma de ce scénario de la dissidence en l'appliquant à Socrate.
Alors, je l'ai repris, je dois dire que il n'y a pas que ça dans mon livre sur Socrate. Hein. Je me pose trois questions pour ce livre. Comment se fait-il qu'on s'en soit pris à Socrate que dans une Athènes qui a été le berceau de la démocratie, de la rationalité, etc., ça semble tout à fait aberrant. La deuxième question, c'est comment se fait-il que Aristophane, qui l'a côtoyé, a pu en faire une caricature invraisemblable dans les nuées,
oui, bien sûr.
Et la troisième question, c'est pourquoi Socrate a-t-il provoqué sa condamnation à mort? Alors, trois questions qu'on se pose depuis longtemps, je suis pas la première à la poser, mais il me semble qu'avec l'approche sociologique que j'ai adoptée, ça permet de faire quelques avancées. Parce que j'ai essayé de reconstituer l'interaction entre la cité, entre les Athéniens et Socrate. Et cette interaction, on la voit pas émerger du discours de Platon. On voit les réactions d'un certain nombre des interlocuteurs de Socrate, bien sûr, mais on ne voit pas quel est l'enjeu. Et alors, l'enjeu, je crois pouvoir le décrypter à partir de la référence au discours de Xénophon dans les Mémorables, et également en analysant de près ces nuées d'Aristophane. Mm-hmm. C'est-à-dire que je m'appuie sur trois auteurs au lieu de m'appuyer simplement sur Platon.
Voilà. Bien sûr.
Et alors, ce qui apparaît, c'est que Socrate est effectivement quelqu'un de très dangereux à l'époque, aux yeux des Athéniens de l'époque.
Et alors, est dangereux, pourquoi ?
Alors voilà. C'est que ce que j'avance comme hypothèse, c'est que à l'époque de Socrate, bien qu'il y ait eu l'édification du monde politique avec la rationalité du citoyen, etc.
Ce que Vernon montre bien dans
ce que Vernon montre très bien. Dans le même temps, tout laisse à penser qu'au niveau de la vie privée, en dehors du champ politique, les Athéniens continuent en majorité à se référer à ce que Jean-Pierre Vernon appelle les nomoi.
Oui.
Et donc, qui est une notion très importante dans mon livre. C'est-à-dire des normes qui ont à la fois une dimension morale, sociale et religieuse. Et religieuse, ça veut dire que si on les transgresse, on transgresse un ordre du monde. Et donc, on est sacrilège.
Alors, en quoi Socrate transcende-t-il les nomoi du 5e siècle?
C'est que du point de vue des nomoi, tout se joue au niveau du problème de la vertu. Être vertueux, c'est bien remplir son rôle social. Alors pour l'homme, c'est de bien administrer la cité, de faire du bien à ses amis, du mal à ses ennemis. Pour la femme, c'est de bien administrer sa maison et d'obéir à son mari. Et alors, comment savoir que c'est bien là le rôle de l'homme et de la femme? On n'a pas à se poser de questions parce que ce sont les normes, ce sont les nomoi qui nous dictent le contenu des rôles sociaux. Donc, du point de vue des nomoi, les rôles sociaux se reproduisent sans que personne ne s'interroge sur leur contenu et sur le bien fondé. Or, que fait Socrate par rapport à ça? Le Socrate tel qu'on le lit dans
Xénophon,
c'est que Socrate demande à son interlocuteur de s'interroger sur la finalité de chacun des rôles sociaux. Par exemple, tu veux être général, mais qu'est-ce que c'est qu'un bon général?
Ce questionnement-là est aussi dans Platon. Note.
Alors, non. Parce que le questionnement de Platon, c'est un questionnement sur les essences, non pas sur les rôles sociaux. On s'interroge sur la vertu, sur la justice, etc. Mais on s'interroge pas sur qu'est-ce qu'un bon général. On s'interroge pas sur qu'est-ce qu'un bon armurier. Et Socrate fait ça avec beaucoup de professions. Et alors, quelle est la nouveauté? C'est que à partir du moment où le sujet s'interroge sur le bien fondé sur la destination de tel rôle social. Et à partir de ce moment-là, il est à amené à se poser la question s'il a les compétences pour ça, s'il a les qualités pour ça, et s'il a la compétence et les qualités, est-ce que finalement il est en cohérence avec les valeurs qu'il devrait mettre en œuvre ? Et donc il y a un retour, c'est comme ça que Socrate invente la dimension d'éthique, la recherche éthique, avec la dimension de retour sur soi, de savoir si je mets en pratique ce que je devrais faire.
Ce que vous montrez donc dans votre ouvrage, Marivonne David Junio, Socrate dissident aux sources d'une éthique pour l'individu citoyen, c'est comment Socrate va, en tout cas tel que Xénophon nous le montre, subvertir les nomoi de la cité grecque et entrer dans une forme de ce que vous appelez la dissidence.
Tout à fait. Tout à fait, parce qu'à partir de ce moment-là, il va à l'encontre du système de référence de la majorité des Athéniens et il devient un homme dangereux. Et c'est bien pour ça qu'il devient l'emblème de toute cette faune intellectuelle qui nous est décrite dans les Nuées d'Aristophane. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les Nuées d'Aristophane m'apparaissent comme l'expression de la réaction de ceux qui défendent les nomoi et qui secrètent une représentation fantasmée de Socrate. D'où ce Socrate qui est mi-physicien, mi-sophiste, mi-philosophe, et qui finit, et ça c'est important, 24 ans avant le procès, par être brûlé dans son pensoir avec ses disciples.
Oui.
Ce qui est quand même d'une grande violence.
Oui. Hein?
Et donc je vois là un effet de l'affrontement entre l'individu dissident et la réaction de ceux qui ont intériorisé les nomoi.
C'est sur ces derniers mots que nous allons clore l'émission en renvoyant à votre site et à votre ouvrage où vous développez largement cette question de Socrate dissident. Marivonne David Junio, je vous remercie.
Je remercie Brigitte Mazire et Pierrick Charles d'avoir rendu possible cette émission et je rappelle le site de Marivonne David Junio, www.david-junio.fr. Au mois prochain.